Alors, bon dimanche à vous tous. Bon matin. Et oui, comme ça a été dit, que ce soit un temps justement de bénédiction, d'encouragement. Si vous êtes ici pour la première fois, si vous êtes visiteur, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. On est bien content que vous soyez avec nous et notre prière, c'est que le Seigneur aussi puisse vous accorder une grande bénédiction. Alors, ce matin, nous sommes excités. Vraiment, nous allons débuter cette nouvelle série intitulée « Face aux géants ». Et si vous demandez, mais quels sont ces géants? Alors, j'aimerais justement vous démontrer qui ils sont. Ce sont les géants de la crainte, la colère, l'anxiété, la tentation, le découragement, l'échec et l'amertume. On peut se demander aussi, mais où se trouvent-ils? J'aimerais vous suggérer que ces géants se trouvent partout. On va les trouver chez nous, dans l'intimité de notre foyer. On va les trouver même à l'école. On va les trouver au bureau. On va les trouver même dans l'église. Alors, quel est leur agenda? Vous savez, les géants, ils ont un plan précis, spécifique. Et leur agenda, simplement, c'est de dérober notre joie. Si vous êtes un enfant de Dieu, ce matin, Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Mais ces géants-là, ils travaillent contre vous, contre moi, justement pour nous dérober de notre joie et aussi créer des difficultés dans nos relations interpersonnelles, relations entre conjoints et conjointes, relations entre parents et enfants, relations au travail entre patrons et employés, et même dans l'Église, des relations entre les frères et les sœurs. Alors, comment est-ce que nous devrions nous réagir face à ces géants? Mais vous avez déjà une partie de la réponse dans le mot « face ». Pourquoi? Pourquoi nous pouvons faire face à ces géants? C'est parce que, et encore une fois, je dis, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu est avec vous. La puissance de Dieu est avec vous. Et comme c'est écrit, vous et moi, nous pouvons gagner la bataille et vivre victorieusement. Alors voilà, ce matin, notre thème, on va démarrer avec le premier géant, combattre la crainte. Combattre la crainte. Et pourquoi combattre la crainte? Et j'aimerais juste, avant d'aller plus loin, spécifier que cette crainte n'est pas la crainte excessive que nous appelons des phobies. On a même une expression qui dit avoir une peur bleue. Et probablement, c'est une chose qui arrive à peut-être le 1% de la population, les gens qui sont tyrannisés, terrorisés justement par une crainte excessive. Et je me suis amusé justement à sortir des listes des choses, des gens qui souffrent justement des phobies. La claustrophobie, d'avoir crainte des espaces clos. Agoraphobie, avoir peur justement des espaces découverts, des lieux publics. Acrophobie, avoir peur des hauteurs. Nyctophobie, avoir peur de la noirceur, surtout les enfants qui réveillent leurs parents dans la nuit pour dire « il y a un monstre sous mon lit ». Ophiophobie, avoir peur des serpents, et surtout des serpents dans un avion. La glossophobie, c'est d'avoir peur de la prise de la parole en public. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler ce matin. Ça, ce n'est pas mon thème. Mon thème, c'est de parler des géants, la crainte tout à fait normale que 99% de la population vous subissez, vous et moi. La crainte qui s'installe quand vous allez chez le médecin et là, il vous dit, je suis désolé, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Et je ne peux m'identifier avec cela parce que l'année dernière, j'étais au bureau de mon médecin. Il venait tout juste de recevoir les résultats d'une échographie de la prostate. Puis il me regarde. Il dit, je suis désolé, vous avez des cellules cancéreuses dans votre prostate. Ça, c'est le type de peur normale qui vient nous envahir quand nous avons ce type de message venant du médecin. Alors, ce matin, mon but, c'est de comprendre justement la crainte. De bien, si on veut combattre la crainte, il faut bien la comprendre. Comme quelqu'un a dit, quand vous allez à la guerre, c'est à votre avantage de bien connaître votre ennemi. Et mieux que vous allez connaître votre ennemi, mieux vous serez placé d'utiliser des stratégies justement pour le combattre et aussi pour avoir la victoire. Alors, pour comprendre la crainte, et on va commencer, comme je dis, la crainte de ce géant qui va nous terroriser, justement, c'est parce que c'est le géant qui se trouve le plus répandu. Si vous prenez justement une échantillon de la population, les statistiques nous disent que dans tous ces géants que nous avons énumérés, l'anxiété, la colère, l'amertume et ainsi de suite, le dénominateur commun qui revient le plus, c'est la crainte, c'est la peur. Et comme j'ai dit ce matin, nous voulons justement gagner la bataille et vivre victorieusement. Alors, pour mieux commencer et pour mieux comprendre, on va commencer avec une définition. Et la définition nous dit « sentiment de forte inquiétude, d'alarme en présence ou la pensée d'un danger, d'une menace qui entraînera une perte. » Alors, quand on est saisi par la crainte, quand nous avons peur, c'est toujours cette appréhension que nous allons perdre quelque chose. Ça peut être réel, ça peut être une pensée, mais c'est toujours cette idée qui vient nous hanter que nous sommes face à une perte. Et mais c'est plus que cela aussi dans la compréhension de la crainte. J'aimerais aussi vous aller un peu plus loin parce que ce n'est pas suffisant juste de comprendre qu'est-ce que c'est. Mais il y a un deuxième aspect aussi de la crainte que c'est très, très important de comprendre. C'est parce que la crainte, comme je dis, a un agenda. La crainte cherche à nous contrôler. La crainte cherche à vous contrôler. La crainte cherche à me contrôler. Et j'aimerais vous poser une question que je me suis posée à moi-même. Qu'est-ce que la crainte vous a fait faire? Ou bien, l'autre côté de la médaille, qu'est-ce que la crainte vous a empêché de faire? Et je peux regarder dans ma vie et je vois des circonstances dans ma vie où est-ce que j'ai agi. Et aujourd'hui, j'ai des regrets, mais j'ai agi à cause de la crainte, d'une certaine manière, que je n'aurais pas dû faire. Et l'autre côté de la médaille aussi, je peux trouver des endroits spécifiques dans ma vie où est-ce que la crainte m'a empêché de faire les choses. Et surtout dans le ministère, dans l'Église, dans les choses que Dieu, les bonnes choses que Dieu met devant nous, souvent, la crainte peut nous empêcher d'accomplir ces choses. Et j'aimerais simplement aller avec une illustration. Et nous avons une illustration classique dans la vie des enfants d'Israël. Voilà le plan de Dieu pour eux. Dieu leur avait justement sorti l'Égypte. Vous allez vous rappeler l'histoire de l'esclavage. Il les avait fait traverser la mer Rouge avec sa puissance. Il les avait nourris dans le désert et Dieu avait un plan merveilleux pour son peuple. Mais qu'est-ce que c'était? C'était d'aller dans le pays promis, le Canaan, le pays où est-ce que Dieu décrit comme où coule le lait et le miel, de chasser les nations qui étaient là Et avec cette complicité avec Dieu, d'être la nation, la tête et non la queue, comme Dieu dit, et d'être une source de bénédiction pour les autres nations, d'être la lumière pour montrer aux gens comment est béni un peuple dont l'Éternel est Dieu. Et alors, il arrive à la frontière justement de ce pays après avoir traversé le désert. Et Dieu va leur dire ceci. Voyez, je mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi à leur descendance après eux. Voilà le plan de Dieu pour ce peuple. Un plan merveilleux, un plan parfait. Où est-ce que Dieu aussi a promis de les bénir? Et qu'est-ce qui arrive? Ce peuple dit ceci, « Mais vous n'avez pas, c'est Moïse qui parle, voulu y monter, et vous vous êtes révolté contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. » Et on pourrait se poser la question ce matin, mais que s'est-il passé? Comment se fait-il que devant ce plan merveilleux de Dieu pour ce peuple, on lit de telles choses, « Vous n'avez pas voulu y monter, et même vous vous êtes révolté contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu, Israël, as-tu perdu la tête? » Alors, qu'est-ce qui motivait ce peuple de prendre une telle décision? Mais c'était le géant de la crainte. Dans Nombre 13 et dans Nombre 14, l'histoire triste est relatée. Moïse envoie des espions dans le pays. 12 et 10. Les 12 reviennent, mais 10 parmi eux donnent un mauvais rapport au peuple. Et là, nous lisons, ils ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Le pays dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, tous. On voit comment est-ce que même il y a l'exagération. Nous y avons vu les géants, il y avait les Anakim, oui, bien sûr. Et là, il dit, nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Alors, vous voyez comment est-ce que la crainte contrôle, a dominé Israël et a empêché à Israël d'accomplir le plan parfait de Dieu pour lui. Et la crainte n'a pas changé ses tactiques. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu aura des œuvres de justice qu'il a préparées d'avance pour chacun de vous. Vous avez tous le Saint-Esprit. Vous avez tous le potentiel d'accomplir des choses extraordinaires pour Dieu. Mais vous avez un géant, la crainte qui est là, qui cherche justement à vous dominer, à vous contrôler pour vous empêcher d'accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Alors, nous avons vu la définition. Nous sommes en train de comprendre justement la crainte dans la définition. Dans sa domination, qu'est-ce que la crainte cherche à faire? Mais il y a un troisième élément aussi que j'aimerais parler avec vous ce matin. C'est l'importance aussi dans la compréhension de la crainte, c'est de le démasquer. Et pourquoi? Parce que, vous savez, parfois la crainte vient nous envahir. Mais on ne sait même pas. Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment? Pourquoi est-ce que je suis en train de réagir d'une telle manière? D'où ça vient? Alors, si nous sommes capables ce matin de démasquer la crainte, plus que nous allons comprendre comment la crainte agit, mais plus que nous allons avoir, mais moins que nous allons avoir peur de la crainte, et moins que la crainte va nous contrôler. Alors, si on peut vraiment voir la vraie face de la crainte, on va être moins effrayé. Et moins que nous sommes effrayés, moins que nous sommes dominés par la crainte. Voilà pourquoi je prends le temps justement avant d'aller chercher la solution, comment combattre plutôt. C'est d'expliquer justement, tout à propos de la crainte. Alors, d'où viennent justement ces sentiments? C'est ce sentiment qui vient nous envahir. Ce sentiment que parfois on ne sait même pas d'où ça vient. Alors, il y a des psychologues, un nommé Karl Albrecht, qui a établi ce qu'ils appellent un peu hiérarchie. Vous savez, on parle de hiérarchie, mais ce matin, on va l'appeler une peurarchie, une hiérarchie de la peur. Et lui a trouvé qu'il y a justement des choses de base qui cachent derrière justement ces émotions et ce sentiment de crainte que parfois vient nous envahir. Alors, la première chose qu'il a dit, c'est la peur, et il a nommé ça l'extinction. C'est simplement la peur de perdre la vie, qui est commun à nous tous. Mais vous savez, derrière cela, ça peut justement sortir d'une manière tout à fait différente. Ce n'est pas parce qu'on pense toujours à cela, on va perdre la vie. Mais il y a des gens qui ont, je vous donne un exemple, qui ont peur de prendre l'avion. Et qu'est-ce qui est derrière cette crainte d'aller dans un avion? C'est parce qu'ils savent que l'avion peut s'écraser. Et si l'avion s'écrase, qu'est-ce qui arrive? On va mourir. Alors voilà, derrière justement la crainte de prendre l'avion, c'est justement la crainte de l'extinction, de perdre la vie. Deuxième chose qu'il a retrouvée, c'est qu'aussi il y a des gens qui ont peur de perdre la capacité d'être autosuffisant. Mais on est en train de démasquer justement d'où vient ce sentiment. D'où vient le sentiment justement de subir une perte économique? D'où vient le sentiment d'avoir peur justement de vieillir et peut-être de se trouver dans une chaise roulante ou bien dans un foyer pour personnes âgées et ainsi de suite? Mais il dit que derrière cela, il y a la peur justement de l'autonomie, justement de perdre cette capacité d'être en contrôle de la situation. Alors, si je subis une perte économique, c'est sûr que les choses que je faisais avant, peut-être je ne peux plus maintenant les faire. Si maintenant je n'ai pas la santé pour, il y a certaines choses aussi que je ne pourrais pas faire. Alors, cette notion de base, c'est que nous voulons tous être en contrôle de notre situation. Nous voulons tous être capables de faire des choses à notre façon. Et très souvent, quand nous subissons des pertes dans certains domaines, c'est à cause de cela que nous avons peur justement de perdre l'autonomie. La troisième chose qu'il a parlé, c'est de la séparation. De ne pas être accepté par les autres par le rejet. Et ça, c'est un qui est extrêmement fort chez quelques individus. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres qui tissent des liens les uns entre les autres. Nous sommes, surtout dans l'Église ici, une communauté où est-ce qu'il y a des relations sur le plan spirituel, émotionnel, et même dans la communauté sociale. Et vous savez, il y a des gens qui ont peur, on parle des peurs ce matin, la crainte, de dire non. Ils ont beaucoup de difficultés à dire non à des personnes. Mais pourquoi? Mais derrière cela, c'est la peur, la crainte, justement, de offusquer l'autre personne. L'autre personne, maintenant, retire justement sa faveur et choquer quoi que ce soit. Et là, qu'est-ce qu'on subit? On subit la séparation. Et c'est pourquoi le divorce est tellement traumatisant pour les gens. Parce que les gens subissent justement un rejet. C'est pourquoi, des fois, quand on commence à penser à faire des campagnes d'évangélisation, il y a certaines craintes qui viennent nous saisir. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on a peur de la personne en face de nous. Mais c'est parce que derrière cela, il y a cette crainte que la personne rejette le message que nous sommes en train de lui proposer. Et par la bande, on va se sentir rejeté. Et la troisième, la dernière chose, c'est la mort de l'ego. Perdre son image de soi, son identité, l'échec, l'humiliation. Et voilà pourquoi la crainte numéro un dans le monde, vous savez c'est quoi? C'est la prise de la parole en public. Pourquoi? Parce que les gens sont devant la foule. Et là, ils commencent à penser, mais qu'est-ce qui va arriver si je bafoue? Qu'est-ce qui va arriver si je commence à bégayer, ainsi de suite? Leur identité, justement, est associée avec une performance quelconque. Et quand ils subissent, justement, un échec, c'est extrêmement difficile, justement, à encaisser. Et ces gens ont cette image que je ne suis rien, I am a nobody, comme on dit en anglais, subissent une sorte d'humiliation. Et ça, justement, les amener à fuir des occasions où est-ce qu'on peut leur demander de prendre la parole. Ou bien quand ils veulent prendre la parole, ils commencent justement à avoir les mains mottes, puis transpirer, toutes sortes de réactions physiques à cause justement de cela. Alors voilà, ce psychologue a démasqué justement la crainte dans cette hiérarchie pour nous aider à mieux comprendre nos sentiments. Pourquoi est-ce que je réagis comme cela? Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Alors, ça, c'est une image qui nous aide justement à bien comprendre comment fonctionne la peur dans votre vie et dans ma vie. Et ça m'a fait du bien. Parce que quand j'étais en train de me préparer cela, j'ai vu justement dans ma vie certains endroits où est-ce que j'avais un certain comportement. Et j'ai compris pourquoi j'ai agissé d'une telle manière quand on a creusé un peu plus. Et peut-être ce matin, en faisant cela, vous avez découvert aussi des choses dans votre vie, des comportements que vous avez. Vous pouvez vous identifier avec certains de ces éléments. Alors, voilà. Bien comprendre la crainte, bien comprendre ce géant, notre ennemi, afin de mieux le combattre. Et là, maintenant, je pose la question, comment est-ce qu'on va combattre la crainte? Parce que ça, c'est le titre du message, on veut combattre la crainte. Et sans doute, peut-être quelques-uns, vous êtes en train d'y penser, mais ça va prendre du courage. Je ne veux plus être un timide, je ne veux pas être un peureux. On va aller justement à la guerre, puis c'est en train de me pomper là, pour aller affronter ce géant. Ça prend du courage. C'est vrai, ça prend du courage, mais j'aimerais aussi vous suggérer quelque chose de beaucoup plus puissant. Et même le courage trouve sa source dans cette chose. Et vous savez c'est quoi? Vous aider à bien deviner. Vous savez, il y a un scénario. Il y a un petit enfant qui ne peut pas dormir. Il a peur. Puis là, il pleure, il crie, puis là, les parents arrivent dans la chambre, puis là, il dit, écoute, je ne peux pas dormir, j'ai peur, il y a un monstre en dessous de mon lit. Et comment est-ce que le parent va répondre? Non, ça n'a pas de sens, fais ton homme, sois fort, là, puis retourne te coucher. Non, qu'est-ce que les parents font d'habitude? Ils vont prendre l'enfant, ils vont le prendre dans ses bras, ils vont l'embrasser. Il va sentir en sécurité, puis il dit, non, je suis là, papa est là, maman est là, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Vous voyez, toute cette idée, c'est justement de rassurer l'enfant, de lui donner du courage, mais ça vient de notre source. Et vous savez, c'est quoi justement qui est l'antidote de la crainte? C'est l'amour. Ça pourrait paraître bizarre, mais c'est l'amour. Et pas n'importe quel amour. J'aimerais vous suggérer ce matin, la source de nos craintes sont là à cause du fait qu'il y a une défaillance dans notre amour. Notre amour est dans la défaillance, dans la compréhension de l'amour. Et je vais parler maintenant de l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Un amour qui est tellement puissant, qui est justement la façon, la meilleure façon de combattre la crainte. Et on va aller dans la parole de Dieu. Il y a deux textes que j'aimerais partager avec vous. Un vient de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Son nom, c'est l'apôtre Jean. Et vous savez comment est-ce que Jean se voyait? Comment est-ce qu'il s'appelait lui? Le disciple que Jésus aimait. Et pourquoi est-ce que Jean dit cela? Est-ce que c'est parce que Jean dit, « Ah, tiens, je suis le chouchou du Seigneur. Il y a Jacques, puis Thomas, puis Matthieu. Mais ah, moi, Jean, là, je suis son petit chouchou. » Ce n'est pas cela. J'aimerais vous suggérer que Jean vivait toujours dans cette intimité avec Christ, puis il était convaincu de l'amour de Jésus pour lui. Et c'est pourquoi il se décrivait justement toujours comme disciple que Jésus aimait. Et qu'est-ce que Jean dit? Dans 1 Jean 4, 18, Jean va dire ceci, le premier épître de Jean, chapitre 4, au verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Jean est en train de dire que quand cet amour que Dieu a pour vous et pour moi est présent dans notre vie, la crainte ne peut pas coexister avec l'amour. Et là, il va un peu plus loin aussi, il dit, il va nous expliquer maintenant quel type d'amour, de quel type d'amour qu'il parle, l'amour parfait. Ça, c'est l'amour qui est inconditionnel. Ça, c'est l'amour de Dieu, c'est que quand je suis fort, Dieu m'aime toujours. Mais quand je suis faible et je trébuche, Dieu m'aime toujours. Quand je suis heureux, joyeux, je saute de joie, Dieu m'aime. Mais quand je passe par les moments de difficulté et même de découragement, mais Dieu m'aime toujours. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Je ne peux rien faire pour que Dieu me m'aime plus. Vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime plus. Mais le contraire aussi est vrai. Vous ne pouvez rien faire que Dieu ne vous aime moins. C'est parce que c'est l'amour parfait. Et Jean est en train de dire que quand l'amour parfait de Dieu remplit notre cœur, il n'y a pas de place justement pour la crainte. L'amour inconditionnel de Dieu pour vous et pour moi bannit, chasse, remplit tellement notre cœur qu'il n'y a plus de place pour la crainte. Et je le dis ceci, si vous allez vous rappeler de cela, quand l'amour de Dieu remplit un cœur, il n'y a plus de place pour la peur. Je fais un petit poème là, mais c'est une manière de se rappeler. Quand l'amour de Dieu remplit un cœur, il n'y a plus de place pour la peur. Et vous savez, une autre personne aussi qui est allée un peu plus loin, c'est l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8. Il va commencer en disant ceci, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Et là, Paul, il va étaler justement une série de conditions, la tribulation, la faim, l'angoisse, le péril. En tout cas, toutes les choses, si vous les regardez, ça peut faire peur. Ça peut justement nous faire avoir des sentiments de crainte, de peur. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit non. Il dit dans toutes ces choses, Paul est tellement convaincu, rempli de l'amour de Christ, qu'il dit même face à toutes ces choses que je viens d'énumérer, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a quoi aimé. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Rien. Alors voilà deux personnes qui ont eu justement cette façon de confronter la crainte, la peur, mais ils ont dit « c'est pas l'amour de Dieu qu'on va gagner la bataille. » Alors, on va revenir à ce que je viens de vous dire et on va voir comment ça fonctionne. Alors, on va commencer à l'envers. On a ce mort de l'ego, perdre notre identité, se sentir bon à rien, à un échec, avoir subi l'humiliation. La part justement de cela, Dieu va nous dire que je t'aime. Tu es mon enfant et malgré ce que tu as vécu, pour moi, à mes yeux, tu es quelqu'un. Et là, je vais vous donner justement les texte dans la parole de Dieu qui nous démontre justement que notre identité ne dépend pas de qui, ce que nous avons fait, comment les autres personnes nous voient, mais c'est comment Dieu nous voit. Et quel beau texte dans Éphésiens 2, Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors Dieu nous dit, écoute, mon enfant, ma fille, mon fils, tu es en Jésus-Christ. Je te vois à travers mon fils. Et parce que je vois, te vois à travers mon fils, tu es en Jésus-Christ, simplement veut dire que vous avez maintenant une position. Et Dieu nous appelle des saints. La sainteté de Dieu, Dieu est en train de nous dire, la sainteté de Jésus-Christ est votre sainteté. Parce que vous êtes en Jésus-Christ. Et là, je vois vous, tous vos péchés du passé, présent et même du futur. Je ne les vois plus. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je les ai mis au fond de l'océan. Et je vous vois pur à travers le sang de Jésus-Christ. Notre position. Dieu va même encore plus loin. Il dit, vous êtes maintenant mes fils et mes filles. Et quelle position d'honneur. C'est tellement honorifique. Dieu dit, vous êtes mes bien-aimés parce que vous êtes mes enfants, je vous aime. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu quoi? Un esprit d'adoption. Nous sommes les enfants de Dieu par lequel nous crions quoi? Abba, Père. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grandiose que cela de se savoir enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu? Dieu nous dit ce matin, je vous aime d'un amour éternel. Vous êtes quelqu'un, vous êtes mes enfants. Votre identité ne dépend pas de ce que les autres disent de vous ou même ce que vous pensez de vous-même. Vous êtes mes chers enfants. Vous avez une statue tout à fait particulière. L'autre chose, Dieu dit aussi, écoute, vous êtes des rachetés. Vous étiez tellement précieux à mes yeux que j'ai même sacrifié mon fils pour vous. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Dieu dit, vous êtes précieux. Et le prix que j'ai payé, c'est inestimable. Il n'y a aucun argent, or, qu'importe, dans ce monde qui pourrait racheter une âme. Dieu dit, j'ai payé le prix suprême pour vous, parce que vous êtes précieux, vous êtes quelqu'un. Votre identité ne repose pas, je répète, sur ce que vous pensez de vous-même ou ce que les autres pensent de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cela, parce que vous êtes quelqu'un. Et finalement, vous êtes mes héritiers. Je veux vous donner justement des richesses. Vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ce que Christ possède, nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ. Dieu veut dire aussi, il veut partager ça avec vous. Alors, mort de l'ego? Non. Avoir peur justement de l'humiliation, de l'échec? Non. Parce que tu es quelqu'un, nous sommes le peuple de Dieu et nous avons un statut particulier auprès de Dieu. Deuxième chose que quelqu'un a dit, être chrétien, ce n'est pas seulement recevoir quelque chose, c'est surtout d'être quelqu'un. Alors, on voit maintenant comment est-ce qu'on peut combattre ce sentiment d'échec, ce sentiment que je suis un nobody, ce sentiment que si j'étais humilié. Focaliser sur l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Vous allez voir comment est-ce que la crainte va se tordre. Avoir notre cœur rempli justement de ces sentiments que Dieu m'aime, de l'amour, Dieu m'aime à la folie. Deuxième chose, Dieu dit ceci, ne pas être accepté par les autres, subir le rejet. Et ça, comme j'ai dit, c'est très traumatisant quand quelqu'un ne se sent pas aimé, rejeté et avoir la crainte, toujours avoir ce sentiment de vouloir toujours plaire aux personnes parce qu'on craint justement que les autres nous rejettent. Dieu a dit non, non. Il dit, je suis toujours avec toi. Et j'ai trouvé des beaux versets ici. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu est en train de nous rassurer. que nous n'avons pas besoin justement de craindre le rejet des autres personnes parce que Dieu sera toujours avec nous. Il nous assure de sa présence. Je suis là, je suis là. Qu'importe dans la situation que tu trouves, qu'importe où tu es, qu'importe ce que tu es en train de vivre, je me colle à tes côtés. Je ne te délaisserai point. Je suis toujours là. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, je suis toujours avec toi. Et voilà un autre texte qui dit ici, « Quand même mon père et ma mère m'abandonnent. » Et j'imagine que ça serait tellement déchirant pour quelqu'un. Imagine, ton propre père ou ta propre mère dit, « Je ne veux rien savoir de toi. » Comment ça pourrait faire mal au cœur? Dieu redit, le psalmiste dit, « L'Éternel me recueillera. » Alors, quel beau texte, quel beau verset pour nous rappeler encore que Dieu ne nous délaissera pas, il est toujours avec nous. Si on revient à notre parachie, autonomie, perdre la capacité d'être autosuffisant, Dieu a dit, je suis en contrôle. Je suis en contrôle. Tu as peur justement de subir une perte économique, je suis en contrôle. Tu as peur de vieillir et puis de ne pas avoir la capacité de faire certaines choses, je suis en contrôle. Et voilà ce qu'il nous dit ici, arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et tes destinées sont entre mes mains, je suis en contrôle. Tu n'as pas besoin de craindre les circonstances. Je suis avec toi, tu es précieux à mes yeux et je suis en contrôle. Et, ça, et Paul va dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la peur justement de l'extinction, voilà comment est-ce que l'amour de Dieu vient remplir notre cœur pour nous rassurer. Perdre la vie, oui, c'est basique, c'est un sentiment, oui, tout à fait normal pour nous tous. Nous aimons tous vivre. Mais même devant ce sentiment-là, de l'extinction, Dieu nous dit, dans mon amour, j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. Et voilà ce que Jésus, le texte nous dit, par la mort, Jésus, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, et il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et ça, c'est une manière de combattre la crainte, de savoir que Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Et dans Jean chapitre 10, quelqu'un a fait référence à cela ce matin, Jésus a dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de ma main. » Par l'extinction? Mais non. Jésus a dit, « Parce que je vis, vous vivrez aussi. Dans mon amour pour vous, j'ai tout arrangé. Face à cette peur normale de l'extinction, je vous donne justement cette belle promesse. Vous avez la vie éternelle. » Et j'aime aussi Job qui était dans une souffrance extraordinaire, très, très difficile. Il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand ma peau serait détruite, quand je n'aurai plus de chair, Job dit, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. » Alors, je n'ai pas besoin de craindre l'extinction, je n'ai pas besoin de craindre la mort. Jésus est vivant. Et parce que Jésus vit, moi aussi, je vais vivre avec lui. Voyez comment est-ce que l'amour de Dieu? Quand l'amour de Dieu remplit un cœur, il n'y a plus de place pour la peur. Tous ces sentiments qui viennent nous envahir, justement à propos de cette extinction, à propos de la séparation, à propos de notre autonomie, à propos de notre ego, Dieu dit, j'ai une réponse pour chacun de ces choses. Et tout ce que vous avez à faire, j'avais oublié ce verset, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » À cause de tout cela, être inondé par l'amour de Dieu est la manière de noyer la crainte. Et je répète, la peur et la crainte et l'amour parfait de Dieu ne peuvent pas coexister. L'apôtre Jean nous l'a dit. L'apôtre Paul nous l'a dit. Et j'espère que ce matin, vous allez prendre cela. Vous allez prendre cette hiérarchie, vous allez identifier, comme moi j'ai fait, les endroits où est-ce que j'étais motivé, contrôlé par la peur. Et là, j'étais allé de l'autre côté et j'ai vu justement l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu me disait à propos de ses peurs et ses craintes? Et de justement voir jusqu'à quel point Dieu nous aime et jusqu'à quel point, quand son amour remplit nos cœurs, il n'y a plus de place pour la peur. Inondé par l'amour de Dieu, c'est la manière de noyer la crainte. Alors, je veux vous donner une application ce matin, en terminant. Il me reste 3 minutes. Ça a été très salutaire pour moi. J'ai fait l'exercice moi-même, comme j'ai dit, mais j'aimerais aussi vous fassiez l'exercice vous-même. Regardez la hiérarchie. Essayez d'identifier quelque chose dans votre vie qui, en ce moment, est en train d'être un géant dans votre vie, qui vous pouvez justement voir que vous réagissez d'une certaine manière à cause de ce que vous avez. Est-ce que c'est justement l'extinction? Est-ce que c'est la séparation? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est votre ego? Et dire en vous-même, je ne serai plus maintenant tyrannisé, dominé, contrôlé par ce sentiment. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et en application, va dans l'autre côté et trouvez justement ce que Dieu dit à propos justement de cela, de votre identité. Vous êtes quelqu'un. Le fait que cette séparation, Dieu dit non, je ne vous délaisserai jamais. Vous êtes précieux à mes yeux. Même je veux vous avoir avec moi pendant toute l'éternité. Vous allez passer l'éternité avec moi. Cette autonomie, Dieu dit, je suis en contrôle. Ne vous inquiétez pas, j'ai votre destinée entre mes mains. Et l'extinction, Dieu va vous dire, vous allez vivre éternellement dans ma présence, dans la joie et dans le bonheur. Et ça, si vous le faites, peut-être écrire un verset, mettre ça sur le réfrigérateur, sur le dash de votre voiture, qu'importe, mémoriser quelque chose, vous allez voir comment est-ce que la parole de Dieu est puissante pour nous donner la victoire contre nos géants. Et une dernière chose, c'est très important de souligner que si vous êtes ici ce matin et vous ne pouvez pas dire que je suis un enfant de Dieu. J'ai parlé de comment combattre la crainte, mais vous devrez craindre parce que Dieu est un Dieu qui est saint. Et sa sainteté exige que le péché soit puni. Et vous savez, quand j'étais sauvé, ce n'était pas à cause de l'amour de Dieu. Moi, j'étais sauvé, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ par crainte, parce que j'étais élevé dans une famille chrétienne. J'étais allé à l'école dimanche, j'ai appris les versets, même j'ai témoigné à ma femme, puis elle est venue au Seigneur avant, je lui ai annoncé l'Évangile. Elle est venue au Seigneur avant moi. Mais quand je me suis... Quand la parole de Dieu a touché mon cœur, et je me suis rendu compte que j'avais tellement de connaissances intellectuelles que je n'avais jamais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et j'étais conscient que Jésus pouvait revenir à n'importe quel instant. Et j'avais appris assez de savoir que celui qui meurt dans ses péchés est séparé de Dieu pour l'éternité. Je vous dis que j'ai eu peur. Mais Dieu s'est servi de cette crainte-là pour justement m'amener vers lui. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose, la peur. Vous savez, des fois, on a peur de mettre notre main dans le feu. Mais ça, c'est bien. Ou bien aller jouer dans le trafic, parce qu'on ne va pas se faire mal. Mais ça aussi, c'est une manière que Dieu peut racheter notre crainte pour nous pointer vers Jésus-Christ. Et je vous dis que quand j'ai vraiment saisi cela, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, écoute, moi, je connais ta parole. J'ai évangélisé ma femme, elle est venue au Seigneur avant moi, puis moi, qu'est-ce qui se passe? Et si tu reviens, je m'en vais dans l'enfer, je vais te séparer de toi pour l'éternité. J'en veux pas! Seigneur, sauve-moi! Et je vous dis que ça, c'est un cri que le Seigneur va toujours entendre, puis il répondra toujours. Parce qu'il dit, celui qui, je mettrai point dans celui qui viendra à moi. Alors, voilà, si vous êtes ici, vous ne pouvez pas dire que Jésus est votre sauveur. Laissez-moi vous dire que son amour aussi est pour vous. Et sur la croix de Calvaire, Jésus a donné sa vie, il a versé son sang, il a payé la dette de vos péchés. Et si vous venez vers lui ce matin, vous dites, Seigneur, aie pitié de moi qui suis pécheur. Seigneur vous sauvera. Et tout ce que je viens de vous dire, son amour va remplir votre cœur. Et vous pouvez vivre une vie. Ah, Raph Chalice qui a dit ceci, mais j'ai fait avec ça. Vous pouvez gagner la bataille et vivre victorieusement. On va prier. Seigneur, merci que tu es le Dieu qui nous aime à la folie.